Bonjour, il est 14h pour ce lundi. Nous allons pouvoir commencer cette séance du conseil municipal et nous commençons cette séance avec l'appel par Magali Vincent. Merci.
Bonjour à tous. Donc pour l'appel, Monsieur Hervé Stassinos, Monsieur Christian Garnier, Madame Valérie Rialan, Madame Josiane Sicardi, Monsieur Pascal Campins, Madame Cécile Gomez, Monsieur Jean-François Plane, Madame Bérénice Bonal, Monsieur Jean-Michel Perrapou, Monsieur Paul Moreau, Madame Céline Pratier-Aiguier, Madame Magali Vincent présente, Monsieur Denis Chambly, Madame Viviane Thiard, Monsieur Véga Jean-Claude, Madame Bénédicte Lemoine, Monsieur Daniel Vesreau, Monsieur Daniel Duvoux, Madame Agnès Biazuto, Madame Valérie Aubry, Monsieur Jean-Marc Illich, Madame Dominique Roland, Madame Nicole Roux, Monsieur Lionel Riquel, Monsieur Patrick Rouas, Madame Nicole Vaca, Monsieur Frédéric Fior, Monsieur Stéphane Beltra, Madame Jennifer Dely, Monsieur Yves Parent, Madame Emmanuelle Livrelli, Monsieur Olivier Durand, Monsieur François Meurier.
Et j'ai reçu le pouvoir de Monsieur Durand pour Monsieur Frédéric Fior. Madame Nicole Vaca donne pouvoir à Yves Parent. Lionel Riquelme donne pouvoir à Paul Moreau. Et Monsieur Patrick Croix donne pouvoir à Hervé Stassinos. Et Céline Prati donne pouvoir à Valérie Rialan. Monsieur Fior.
Il me semble que vous avez oublié le pouvoir de Madame Dely, qui vous a été remis.
Oui, tout à fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Non, mais vous pouvez le dire en séance.
Ah, mais je veux bien. J'ai donc reçu une procuration de Madame Dely pour Monsieur Frédéric Fior. J'en ai parlé avec Monsieur Frédéric Fior tout à l'heure, parce que dans l'article 13 du règlement intérieur, c'est un seul pouvoir par personne. Donc, je lui ai proposé d'appeler éventuellement quelqu'un pour changer de pouvoir. Il a souhaité que je ne prenne pas compte de la procuration, donc je ne tiens pas compte de la procuration, conformément à l'article 13 du règlement intérieur. Mais j'ai bien reçu une procuration.
Si je puis me permettre, ce n'est pas moi qui ai souhaité que vous ne teniez pas compte de la procuration, puisque c'est exactement le contraire. Moi, je vous ai remis la procuration. Je souhaiterais que vous en teniez compte. C'est vous qui n'avez pas voulu.
Oui, je l'ai lu, donc. Parfait. Alors, on va passer alors au vote du procès-verbal, sachant que le procès-verbal, il y a une petite omission dans les documents qui vous ont été envoyés. On a omis de vous envoyer les PV qu'on vous a remis sur table. Donc, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est de voter quand même ces PV. Ils sont en ligne depuis 15 jours et on avait envoyé ce qu'il fallait à la préfecture avant. Donc, de toute façon, on est bon. Donc, qui est contre ? Monsieur Fior, allez-y. Monsieur Parent, ensuite.
Merci. Puisque c'est gentiment demandé, nous accepterons la remise sur table de ce procès-verbal. Nous vous faisons quand même remarquer qu'à 12h30 aujourd'hui, il n'y avait pas le compte-rendu audio en ligne du dernier conseil municipal. Comme depuis le début du mandat, vous nous dites que c'est le compte-rendu audio qui fait office de procès-verbal, puisque dans ce procès-verbal, il n'y a rien. Je trouve que la méthode est encore une fois pas admissible. On est en conseil municipal et on n'a même pas le compte-rendu audio du précédent conseil qui s'est tenu il y a 3 mois et quelques. Voilà, donc nous allons voter contre, encore une fois.
Monsieur Parent, non ? D'accord. On va voter qui contre ? Voilà. Qui s'abstient ? Une abstention, qui est pour ? Alors, le fichier audio est bien sur Internet, c'est plus un fichier YouTube, maintenant c'est un fichier MP3, mais c'est bien la bande audio qui est en ligne depuis 15 jours, depuis 15 jours, 3 semaines. Donc retournez sur le site, il y a toutes les délibérations avec le fichier audio qui est associé. Alors, nous allons pouvoir passer aux délibérations maintenant. Alors, la première délibération, ça concerne un sujet qui avait été évoqué déjà lors des précédents conseils municipaux, dont le dernier. Ça concerne le passage en métropole qui est décidé l'année dernière et qui est mis en place depuis le 1er janvier 2018. Et ça concerne bien sûr la fameuse AC. sachant que dans le cadre de la métropole, il y a un certain nombre de compétences qui sont transférées. Donc, il est bien évident, je pense pour tout le monde, que quand on transfère des compétences, on transfère en même temps les produits et les charges qui sont nécessaires à l'exercice de la compétence transférée. Alors, c'est prévu par la loi, c'est encadré par la loi, et tout ce qui a été fait, bien sûr, c'est encadré légalement. Il y en a suivi, c'est une procédure légale qui a été utilisée par pas mal de métropoles avant celle de Toulon. Ça veut dire que les personnels, les matériels, les biens mobiliers, immobiliers sont transférés. Ce sont les moyens financiers qui font l'objet d'une attribution de compensation, tant dans la section de fonctionnement que dans la section d'investissement. Alors, pour rappel, TPM est devenu compétent sur la voirie, l'aménagement, valorisation des espaces naturels, les concessions de plage, les parcs de stationnement, les eaux pluviales, la lutte contre les incendies, la distribution publique d'électricité et de gaz, les bornes de recharge pour les véhicules électriques et quelques autres compétences qui ne concernent pas forcément. En ce qui concerne le Pradet, on a 29 agents qui sont transférés à 100%, 3 agents qui sont transférés entre 50 et 80%, 19 agents sont transférés entre 2 et 45%. Seuls les agents dépassant les 50% ou atteignant les 50% passent dans les feuilles de paye de la métropole. Le reste attaché à la commune d'un point de vue RH. Les mouvements de personnel sont bien sûr valorisés dans la section de fonctionnement. Concernant les matériels et les biens, une délibération en fixera la date, la liste exhaustive. Ce conseil municipal devra intervenir en décembre parce qu'il y a un transfert qui doit se faire, un transfert juridique de propriété entre la commune et TPM. Donc cette délibération devra intervenir au prochain conseil municipal. Concernant les attributions de compensation, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'objet de la première délibération. Outre les frais de personnel qui ont été évoqués un petit peu plus haut, elles ont été calculées de la manière suivante. Pour l'assiette de fonctionnement, concernant les frais de personnel, ce qui a été décidé, c'est de reprendre l'année 2017, uniquement un an, 2017. Toutes les dépenses de fonctionnement sur toutes les politiques publiques ont été reprises sur un calcul de 3 ans. Pour l'assiette d'investissement, la moyenne concerne les 7 derniers exercices. C'est un mode de calcul qui est recommandé par la DGFiP, qui a été validé bien sûr avec la préfecture, et c'est pratiqué par une majorité de métropoles et de communautés urbaines. Donc c'est ce qu'on a fait aussi, nous on a été accompagnés par une AMO, et c'est ce qui a été validé à la fois par TPM et par l'ensemble des équipes de la métropole. Il faut savoir qu'au-delà de ce mode de calcul, il y a un échange qui s'est fait entre la métropole et les différentes communes, en se basant sur ces calculs, pour adapter chacune des assiettes sur les différentes politiques publiques en fonction de la volonté des maires. Donc ce n'est pas une règle qui a été prise et qui a été adoptée et exécutée de façon aveugle. Au contraire, c'est une règle qui a été mise en place, mais sur laquelle il y a eu beaucoup de souplesse dans sa mise en œuvre et dans laquelle il y aura beaucoup de souplesse dans sa mise en œuvre. L'objectif de la métropole et l'objectif des communes, c'est de laisser une grande autonomie de gestion aux communes et d'être sûr que les objectifs politiques soient communs entre la métropole et les communes. C'est pour ça que dans le calcul de l'AC, il y a à la fois, dans les discussions qu'il y a eu, il y a eu de la souplesse dans le mode de calcul et dans les résultats que je vous annonçais, et il y aura aussi les clauses de revoyure par politique publique de manière à réajuster les AC aux besoins dans 1 an, 2 ans, 3 ans en fonction des politiques publiques. Alors, en ce qui concerne le Pradet, l'AC de fonctionnement est de 1 637 224 euros. En ce qui concerne l'investissement, nous avons 437 791 euros. Alors, ce qu'on a retiré notamment, parce que le niveau d'investissement peut sembler faible, on a retiré toutes les opérations qui étaient de nature exceptionnelle, parce que ces opérations seront après portées à 100% pour la métropole, et ça reste des opérations exceptionnelles sur lesquelles il y a beaucoup de subventions. Et nous avons souhaité, en tout cas la commune du Pradet a souhaité retirer ces opérations du calcul. Alors, vous a été joint un rapport. rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, puisqu'il y a une commission qui s'est tenue, qui a pris un bon moment à l'ensemble des services que je remercie pour leur travail, tant au niveau des différentes communes qu'au niveau de la métropole. Donc une commission s'est tenue avec tous les membres. Le résultat est arrivé le 21 juin. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on met bien sûr ce rapport au débat aujourd'hui. Chacun en dit ce qu'il en pense. Et puis, à la suite de ça, TPM validera ces clés qui doivent être validées par les communes. Et ensuite, toutes les écritures seront faites au niveau de TPM. Donc, ce rapport vous a été remis. Il liste à la fois par commune et par domaine de compétences transférées. Il liste l'ensemble des transferts d'écriture qui vont avoir lieu dans le passage à la métropole. Je pense que vous l'avez lu dans le détail et vous avez certainement des interventions liées à ce rapport. Et la parole est bien sûr à l'opposition. Je vous en prie, nous vous écoutons, nous sommes là pour débattre, un grand moment démocratique. Voyez.
Moi, sur les transferts d'écriture, j'ai rien à dire. Après, nous, ce qui nous pose problème au Rassemblement national, c'est la métropolisation. Donc, moi, je vais voter contre, mais c'est plus philosophique.
Oui, donc effectivement, il y a eu pas mal de débats au travers des différentes commissions qui sont tenues à TPM ou au travers des conseils métropolitains qui sont tenus sur le sujet. Effectivement, je crois que le Rassemblement national a donné son point de vue et il a eu l'occasion d'en débattre pas mal de fois. Je crois que chacun connaît son point de vue. C'est bon ? Voilà, parfait. Monsieur Fior.
Merci, monsieur le maire. Un grand moment démocratique. Ce sont vos paroles. C'est un peu étonnant de terminer comme ça parce que lors de ce conseil municipal, on a des écritures budgétaires, on a une décision modificative, on a un rapport de la CLET, on a des transferts d'actifs et on a été informé il y a 5 jours. Il n'y a eu aucune commission des finances. C'est bien la première fois. Monsieur le Perato, je suis désolé, mais pour une fois, je trouve vraiment pas ça normal. Autant les fois précédentes, j'avais salué que la commission des finances se réunissait systématiquement avant chaque budget où on intervenait des délibérations en matière de finances. Là, il n'y a pas eu de commission des finances du tout. Pourtant, elles sont prévues dans le règlement intérieur, monsieur le maire. Donc, ce n'est pas très démocratique parce que c'est un sujet complexe. Et la manière dont vous avez présenté les choses montre bien que c'est un sujet complexe. Deuxième élément, vous nous dites que vous avez été assisté par une assistance à maîtrise d'ouvrage au Pradé, sur la Clète. Donc il n'y a pas d'assistance à maîtrise d'ouvrage au Pradé sur la Clète. Voilà. Donc, si je comprends bien, ce sont les services du Pradé et les élus du Pradé qui ont porté ce sujet-là, qui est extrêmement complexe, je le répète. Troisième élément, j'ai cru comprendre dans les délibérations précédentes que les personnes qui étaient censées nous représenter à la CLET s'appelaient, si je ne fais pas d'erreur, et s'il n'y a pas eu de modification, Denis Chambly et Dominique Roland. Moi, j'aurais aimé que cette délibération soit portée par eux, puisque ce sont eux, a priori, qui ont participé à la CLET, et non pas vous. Quatrième élément, donc s'ils veulent bien nous dire la manière dont ça s'est passé, je ne cherche pas à les coincer sur le plan technique, mais combien il y a eu de réunions, comment ça s'est passé, est-ce que tout était ficelé quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez eu voix au chapitre, est-ce qu'il y a eu des sujets qui ont été discutés, des sujets pas simples, simplement à titre d'information. Quatrième élément, vous nous dites que c'est un système légal qui est bordé, qui est encadré par la DGFiP, la Chambre régionale des comptes, qu'un certain nombre de métropoles sont déjà passées comme ça et que en clair circulé, il n'y a rien à voir. Et dans la même phrase, ou quasiment la même phrase, vous nous dites, de toute façon, les attributions de compensation, parce que les AC, ça s'appelle attribution de compensation, les attributions de compensation adoptées ont été adoptés en fonction de la volonté des maires. Voilà une phrase extrêmement étonnante. et jeune Clette qui est encadrée et dont vous ne faites pas partie, et qu'ensuite, ah ben non, mais c'est adopté à la suite de la volonté des maires. Ça, ça ne me rassure pas vraiment. Et je ne trouve pas ça tout à fait normal. Mais vous aurez l'occasion de me répondre sur ce point-là. Enfin, vous nous dites, dans votre corps d'intervention, les opérations exceptionnelles ont été retirées. Soit. Lesquelles? Donc, puisque vous avez ouvert le débat, je vous propose que vous commenciez par me répondre à ces 5 points, et ensuite, éventuellement, en fonction de vos réponses, j'en aurai d'autres. Merci beaucoup.
Il y a plusieurs choses dans ce qui est évoqué. Je pense qu'il faut, bien comprendre l'esprit dans lequel on travaille avec la métropole. On n'est pas dans un esprit d'opposition, on est dans un esprit de co-construction. Donc, j'ai suivi tous les travaux du passage en métropole, et notamment les impacts financiers, les impacts organisationnels. Voilà, ça a été piloté par le maire avec toute son équipe, notamment avec nos amis Madame Roland et Monsieur Chambly. Mais bien sûr que le maire, mais comme tous les maires, vous savez qu'il y avait un bureau communautaire qui se tient tous les 15 jours. C'est un sujet qui a été évoqué à chaque bureau communautaire, en dehors des bureaux communautaires. Ça fait le suivi direct du maire sur un sujet aussi important. Donc, ce n'est pas un travail d'un maire ou d'un élu, c'est le travail d'une équipe pour l'ambition qu'on a de voir le cadre de vie au Pradès s'améliorer, l'ambition qu'on a pour notre métropole de prendre de la puissance. Donc, c'est vraiment l'esprit dans lequel on a travaillé dans l'esprit de co-construction avec la métropole. Voilà, des ajustements, bien sûr qu'il y en a eu. Quelle opération? L'opération cœur de ville, principalement, c'était la plus grosse, qui représentait à peu près 6 millions d'euros. Donc, on a souhaité la retirer pour pas qu'il y ait une assiette trop importante. Mais l'objectif que j'ai eu en déterminant cet assiette avec TPM, qui a utilisé une AMO, je le confirme, et bien une AMO qu'on a vue d'ailleurs, c'était l'AMO. On n'est pas en opposition avec la métropole. Donc l'AMO de TPM, c'est l'AMO des communes. On n'est pas contre TPM, on est avec TPM. J'ai coutume de dire qu'il y a 13 collectivités à TPM. Il y a TPM et les 12 communes, il y a 13 collectivités. Et on travaille tous dans le même sens. Et on n'est pas là pour porter le fer contre TPM. Au contraire, on est là pour travailler avec TPM, pour améliorer. Mon objectif en tant que maire du Pradès, c'est d'améliorer la vie au quotidien au Pradès, d'améliorer le cadre de vie, de faire des efforts sur la voirie, de faire des efforts sur l'éclairage public, de faire des efforts sur les entrées de ville. On est en train de regarder avec la métropole comment on peut travailler pour les années à venir sur un certain nombre de sujets structurants pour la commune. On aurait peut-être du mal à porter ces sujets tout seul. On va les porter avec TPM. On essaie de faire inscrire ces opérations dans le CRET. On qualifie ces opérations aujourd'hui. On lance des études. On regarde avec la TPM. Avec TPM, c'est possible, notamment financièrement. On va être aidé. Donc, c'est vraiment l'esprit dans lequel on travaille avec TPM. On travaille avec TPM. On ne travaille pas contre TPM. On est aussi vigilant, bien sûr, sur l'intérêt communal. Et c'est à ce titre-là que, dans le respect des règles qui ont été retenues pour les calculs d'attribution de compensation, j'ai souhaité faire un certain nombre d'aménagements. Mais je ne suis pas le seul. Tous les maires ont souhaité faire des aménagements sur les calculs d'AC par rapport à une règle. Et heureusement, c'est-à-dire qu'il y a une écoute de TPM pour chacune des communes, comme il y a une écoute des communes pour TPM. Parce que chacun peut comprendre que quand on transfère du personnel, quand on transfère des compétences, il faut transférer les personnels qui vont avec, les biens immobiliers, les investissements, sinon la métropole ne pourrait rien faire. Et c'est vraiment l'esprit dans lequel on a travaillé pendant toutes ces années, un esprit positif, un esprit ambitieux pour nos communes, un esprit ambitieux pour TPM, et l'ambition, elle ne fait que commencer.
Que j'ai jamais dit qu'il fallait travailler contre TPM. J'ai répondu là-dessus tout le temps, mais moi j'ai jamais dit qu'il fallait travailler contre TPM. Par contre, puisque vous nous avez dit que l'opération exceptionnelle ne rentre pas dans les transferts de compétences ni dans les AC, donc c'est l'opération cœur de ville, c'est accessoirement la réflexion de toute la voirie. Donc, on va rester propriétaire de la voirie alors. De ville, ni l'avenue Jean Moulin, ni les trottoirs, ni l'éclairage, tout ça, c'est pas transféré.
Effectivement, un sujet complexe. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure en préambule, c'est qu'il y aura une délibération à intervenir sur le transfert du patrimoine qu'on transfère. Bien sûr que la voirie en fait partie intégralement, on ne déroge pas la règle du tout.
Alors, si vous transférez la voirie, vous allez transférer un actif. Donc, vous allez transférer le passé. passif qui va avec cet actif. Vous avez transféré également les subventions qui vont avec cet actif. Vous avez transféré les amortissements qui ont été pratiqués avec cet actif. Donc ça, ça impacte les attributions de compensation. Mais comme vous venez de dire que les opérations exceptionnelles avaient été retirées et que le cœur de ville donc, n'était pas retiré, comment vous pouvez retirer des attributions de compensation en transférant l'actif?
On a annoncé, vous avez oublié la FCTVA aussi. Mais dans les camps, on calcule, quand on transfère une opération comme ça, on retire tout, on retire la FCTVA, on retire les subventions, on retire tout. Ça aurait eu un impact, l'opération cœur de ville aurait eu un impact sur l'attribution de compensation que je n'ai pas souhaité voir impacter. Voilà, donc, mais on transfère à la voirie, il vous confirme qu'on le fait, que c'est tout à fait possible, ça a été validé à la fois avec l'AMO et avec les juridiques juridiques de DPM. Mais on n'est vraiment pas la seule commune à faire ça, hein. C'est le cas de la gare sur le parking, c'est le cas de pas mal de communes, voilà. Et je pense que ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que ce travail s'est fait en pleine collaboration avec DPM. Ce sont des sujets qui ont été mis sur la table, qui ont été discutés de façon tranquille, décontractée, en préservant les intérêts tant de DPM que des communes.
J'ai pas trop de doutes sur le fait que vous allez transférer l'actif. Ça, je connais suffisamment la métropole pour savoir qu'elle va vouloir être propriétaire. De toute façon, c'est la loi. Donc, c'est pas le sujet. Est-ce que vous allez transférer les passifs qui vont avec, c'est-à-dire les emprunts qui ont été affectés à ces actifs? Puisque pour l'opération cœur de ville, il y a eu des subventions, mais il y a aussi des emprunts qui ont été réalisés. Est-ce que ce passif-là sera transféré?
Ce que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que de toute façon, on a neutralisé les FCTVA, les subventions qui étaient liées à cette opération. On n'avait pas ne pas prendre les charges et conserver les produits. Donc tout a été neutralisé. Voilà. Concernant les emprunts, les seuls emprunts qui ont été transférés, ce sont les emprunts qui ont été affectés à certaines opérations. Les emprunts qui n'ont pas été affectés n'ont pas pu être transférés. Donc certains emprunts ont été transférés, je le confirme. Le montant exact, mais je pourrais le retrouver.
Moi, je n'en ai pas vu encore. Mais bon, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, monsieur le maire, vous nous dites que ça a été neutralisé. Mais à l'actif du bilan de la commune, il y a la voirie, il y a le cœur de ville. D'accord? Au passif de ce bilan, il y a des emprunts. Ce n'est pas des emprunts affectés, ils sont au budget principal. Donc, il n'y a pas de sujet, ils sont bien au budget principal. Si vous nous dites que vous transférez les actifs, que vous allez transférer les actifs, parce que pour le moment, on n'a rien vu, hein. Voilà. Donc, si vous nous dites que vous allez transférer les actifs, la question que je vous pose, moi, c'est est-ce que vous allez transférer la quote-part d'emprunt qui correspond au cœur de ville? Vous me répondez, tout a été neutralisé. Qu'est-ce que ça veut dire, neutralisé? Qu'est-ce que ça veut dire, neutralisé, comptablement?
Aujourd'hui, la délibération numéro 1, ça concerne l'évaluation de l'attribution de compensation. Il y aura ensuite des délibérations, notamment une DM. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'évaluation. Donc, on vous explique la méthode d'évaluation, le résultat pour la commune du Pradet, et on aboutit à un résultat. Donc, je vous ai dit, oui, il y a des emprunts qui ont été, des emprunts affectés, les seuls emprunts affectés ont pu être transférés. Les autres, sinon, on croyait bien que l'emprunt toxique, s'il n'est plus le transférer, je l'aurais transféré aussi. Or, il ne pouvait pas être affecté puisqu'il avait été fait en 2008. Donc, les seuls emprunts qu'on a pu transférer, ce sont des emprunts qui sont liés à des actifs qui sont transférés ou à des travaux qui sont transférés avec les emprunts.
D'accord sur le principe. Vous ne pouvez pas contester qu'on a emprunté en même temps qu'on faisait les travaux de cœur de ville, monsieur le maire. Vous étiez dans l'opposition, vous le saviez très bien qu'on a emprunté une partie des travaux. Donc si on transfère les actifs, on va transférer une partie de ces emprunts.
Ben voilà.
Je sais pas. Ben mais oui, c'est pas dans les attributions de compensation, là. Il n'y a pas d'emprunt à transférer. Hein.
C'est dans les calculs. Là, ce sont des sommes brutes qu'on vous donne.
Oui, oui, ils n'y sont pas. Il n'y a pas de passif transféré sur la voirie. Donc moi, je ne sais pas, je n'ai pas participé à vos réunions, vous ne nous avez donné aucune information. Vous me dites que c'est neutralisé tout en y étant, je transfère l'actif, mais c'est neutralisé.
Ah oui, je vous le dis. Donc, vous n'êtes pas de pas me croire, mais je vous le dis.
Tout ça n'est pas très clair quand même.
Pour vous, ce n'est pas clair parce que vous n'avez pas été vous n'avez pas travaillé sur le sujet. Pour moi qui ai travaillé pendant 9 mois sur le sujet, c'est très 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 clair.
Ouais.
Est-ce qu'il y avait d'autres points, M. Fior? Non. Monsieur Parent, vous vouliez prendre la parole? Non. Pas d'autres questions? Alors, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, les délibérations numéro 2 et 3 concernent des écritures relatives à cette AC. Monsieur Perratou.
Oui, bonjour. séance du 18 décembre 2017, le conseil municipal a voté la clôture du budget annexe de l'eau. Le principe général concernant le devenir des excédents afférents à la compétence transférée et le maintien dans la comptabilité de la commune en tant que résultant de l'activité de celle-ci. Cependant, il est possible de transférer tout ou partie des résultats. Ce transfert doit donner lieu à des délibérations concordantes entre la ville et la métropole. Le budget de l'eau est excédentaire en fonctionnement et en investissement. Les résultats de clôture se présentent comme suit. L'investissement, il y a 74 646, en fonctionnement 56 127, un total de 130 774. Il est proposé de transférer le solde d'exécution positif de la section d'investissement à la métropole à hauteur de 74 646 afin de financer les reports pris en charge par la métropole TPM. Les inscriptions budgétaires principales seront ainsi, investissement 01, fonctionnement 002, investissement, la dépense en 1068. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la reprise des résultats du budget annexe de l'eau au budget principal comme exposé ci-dessus, d'approuver le transfert du solde positif de la section d'investissement du budget de l'eau au bénéfice de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée comme exposé ci-dessus. De dire que les crédits nécessaires à la réalisation du transfert du solde positif de la section investissement seront inscrits à la décision modificative du budget principal sur le compte 1068 en dépenses. De dire que le transfert du solde positif de la section d'investissement peut donner lieu à une délibération concordante de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée lors de son prochain conseil métropolitain.
Merci M. Perratou. Une question, M. Ferralesi.
D'abord, je voudrais quand même vous faire remarquer que je suis déçu que vous n'ayez pas passé la parole à nos collègues qui participaient à la CLEPTE. Parce que j'aurais quand même bien aimé avoir leur point de vue sur le sujet, parce que quoi que vous en disiez, ce sont eux qui ont participé à cette commission. Sur celle-là, je vous propose de modifier l'ordre du jour et que vous nous présentiez le rapport de l'eau en même temps, puisqu'il y a quand même un lien entre le rapport de l'eau et les excédents que vous proposez de transférer. Et donc, si vous ne souhaitez pas que j'intervienne deux fois en vous disant la même chose, etc., je vous propose...
Et c'est pour vous éviter d'intervenir deux fois, j'accède à votre demande.
Je vous propose que vous... Comme ça, on pourra faire le lien entre les deux.
Je vous propose, cher ami, d'amener la 8 en 2,5 alors.
Monsieur, bonjour. Donc, présentation du rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de l'eau potable sur l'exercice 2017. En application de l'article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales, le maire présente au conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, destiné notamment à l'information des usagers. Le contenu de ce rapport est notamment défini par l'arrêté et le décret du 2 mai 2007 et par l'arrêté du 2 décembre 2013 modifiant celui du 2 mai 2007. Ce document reprend les indicateurs techniques et financiers du service public d'eau potable et donne une vue globale sur le prix de la qualité et du service. Le dit rapport a été soumis à l'examen de la commission consultative des services publics locaux en application de l'article L1413-1 du Code général des collectivités territoriales qui s'est réunie le lundi 17 septembre 2018. Il est précisé qu'après avis de l'Assemblée délibérante, ce rapport ainsi que les avis correspondants sont tenus à disposition du public dans les conditions prévues par l'article L1411-3 du Code précité. Il est donc proposé au Conseil municipal d'adopter ce rapport pour l'exercice 2017. Et j'aimerais préciser avant tout que le volume annuel produit sur le captage de la fouxe est de plus 21,3%. Le volume annuel acheté au SIAE est de moins 11,4%, donc optimisation du puits communal grâce au puits hivernal malgré une sécheresse estivale. Le nombre d'abonnés est de 0,8% d'augmentation, soit 45 abonnés. Le volume vendu aux abonnés est de plus 6%. Le renouvellement des canalisations est à zéro. Le lotissement des Bruyères et le chemin sans père se sont vus comptabilisés dans ce rapport annuel de 2018. Le tarif de l'eau de 2 5,23 € le mètre cube est en baisse de 1,1% dû au coefficient K d'actualisation charge électricité achat d'eau. Le rendement réseau est toujours bon puisqu'il est à 84,4%. Il n'y a plus de branchement au plomb. Une analyse non conforme au puits de captage mais due à un défaut de l'agent préleveur de l'ARS. Et pour mémoire, pas d'avenant signé avec le délégataire Veolia qui a répondu à un marché en 2018 avec une projection contractuelle de l'eau en 2017 de 934 050 mètres cubes. La réalité est de 750 917 mètres cubes. Voilà ce que je voulais ajouter.
Merci. J'ajoute qu'en fait, il y a une commission qui s'est tenue où Yves Parent était présent et donc il y a pas mal de questions qui avaient déjà été abordées lors de cette commission. Des points à soulever, M. Fior, pour commencer cette fois-ci. Vas-y, M. Fior, j'en prie.
Merci. Je vais essayer de vous convaincre de ne pas voter, de reporter cette délibération, enfin la délibération de M. Berratou, en vous fournissant un certain nombre d'éléments. Après, vous prendrez vos responsabilités, ça va de soi. Merci à M. Moreau pour sa présentation, bien que je l'ai trouvé légèrement orienté sur le prix de l'eau, mais je vais y revenir. Je voudrais rappeler un petit peu cette délégation et cette problématique de l'eau en rappelant à mes confrères que le 8 octobre 2015, un avenant a été signé par le maire qui a permis de revaloriser le prix de l'eau pour le compte de Veolia, qui a permis d'apurer la totalité des pertes de Veolia de 2008 à 2014, qui a permis d'anticiper les pertes de Veolia de 2014 à 2020, et pour lequel j'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer et j'avais voté contre, nous avions voté contre pour tout un tas de raisons. Notamment parce que sur le principe d'une délégation de service public, le risque économique doit être supporté par le fermier. Et quand on signe un avenant dans lequel on couvre les pertes du fermier, on dénature la délégation de service public. C'était en 2015, on est en 2018, on a le rapport de 2017. C'est intéressant d'en tirer un bilan par rapport aux hypothèses qui avait été émise pour la signature de cet avenant. On s'aperçoit d'une part que le prix de l'eau a bien augmenté entre 2014 et 2017, plus 5%. J'ai bien entendu, M. Moreau, que vous nous avez dit que le prix de l'eau avait baissé entre 2018 et 2017, sauf que le rapport qu'on examine il porte sur l'année 2017, que l'année 2018 n'est pas terminée, que la facturation est semestrielle et que si effectivement, je ne remets pas en cause le chiffre de 2018, si je fais plus 5%, moins 1%, je considère toujours que le prix de l'eau a augmenté. Pour autant, le chiffre de 2018, il n'est pas certain du tout et on verra en 2019, plus exactement, on ne verra pas, puisque en 2018, le prix de l'eau, le rapport sera commenté à la métropole et c'est la dernière fois que nous allons parler du prix de l'eau ici. Et donc, nous ne verrons pas si effectivement le prix de l'eau en 2018 baisse par rapport à 2017. Par contre, on est sûr qu'entre 2014 et 2017, il a augmenté plus de 5%. Je voudrais que tout le monde soit conscient que dans la délégation qui avait été signée par Roland Joffre à l'époque, une redevance était versée par le fermier, était versée par les trois détents pour le compte de la commune et que le montant annuel de cette redevance s'élève pour 2017 à un montant de 115 000 euros. Ça veut dire que la commune n'avait quasiment aucune dépense et avait une recette de 115 000 euros chaque année. Aujourd'hui, c'est la métropole qui a cette recette de 115 000 euros chaque année. Quand on regarde le rapport, on s'aperçoit que les prévisions sur lesquelles ont été fondées l'avenant que vous avez signé en 2015
sont complètement erronées. Premièrement, l'avenant prévoyait une baisse des volumes vendus de 0,44% chaque année, alors que le rapport que vous nous montrez aujourd'hui fait état d'une hausse de 6%. Donc, c'est quand même une anomalie assez flagrante. Il prévoyait une hausse des achats d'eau, alors que le rapport que vous nous montrez aujourd'hui montre que les achats d'eau ont diminué et que maintenant l'eau du captage de la Foue, au moins sur l'année 2017, est supérieure aux achats d'eau. Donc tout ça profite à Veolia. On s'aperçoit avec ce rapport que malgré le fait que les produits augmentent que le volume augmente de 6%, le montant des produits nets de Veolia n'augmente que de 0,7%. Donc on a une décorrélation entre les chiffres affichés par Veolia et la réalité des produits vendus. On a une incohérence dans le compte de résultats qui est signalé par votre assistance à maîtrise d'ouvrage, qui vous dit que, c'est pas moi qui le dis, c'est votre assistance à maîtrise d'ouvrage, qui vous dit que les chiffres, tant en matière de produits que de charges de Veolia, sont incohérents. Alors quand on les prend, on s'aperçoit que, effectivement, au fur et à mesure que les produits augmentent, les charges augmentent, alors que normalement, ce ne sont que des charges fixes. Pour desservir 45 personnes en plus, il n'y a pas besoin d'avoir une augmentation de plus de 75 000 euros de personnel, une augmentation de plus de 55 000 euros de sous-traitance, une augmentation de téléphone de plus de 5 000 euros. Ça, ce sont les dépenses qui sont données par Veolia pour expliquer son résultat déficitaire. Donc, même votre assistant à maîtrise d'ouvrage les remet en cause. Derrière ça, on a donc un contrat qui a augmenté le prix de l'eau de plus de 5%, qui a permis à Veolia d'apurer ses dettes, qui permet à Veolia maintenant d'avoir, entre guillemets, une hausse de produits qui est masquée par une hausse des charges dont on ne connaît pas l'origine et qui est remis en cause par votre assistant maîtrise d'ouvrage. Quand on regarde ce que vous avez réalisé entre 2014 et 2017, aucun travaux. C'est dans votre rapport. Moi, j'en prends acte. Il est signalé toujours la problématique du captage de la Foue et de sa sécurité. Au titre de 2017, vous n'avez rien fait sur le sujet. Et vous nous demandez aujourd'hui de transférer, d'affecter des résultats à la métropole. Alors, Monsieur Perrateau, sur votre affectation de résultats, d'abord, sur la forme simplement, il me semble qu'on a déjà affecté les résultats de l'an dernier. Si. C'était l'ordre. Ah, si, vous pouvez le reprendre. Lors de votre délibération sur le conseil budgétaire, le premier conseil de l'année où on a voté le compte administratif, le compte de gestion, vous aviez une délibération affectation des résultats. Vous la reprenez, vous regardez. Et ça, c'est sur la forme. On les a affectés, on peut les réaffecter, ce n'est pas un problème. Bon, admettons qu'on ne les ait pas affectés dans le cadre de cette délibération, c'est pas, le fond du sujet n'est pas là. Vous nous demandez pour payer les reports. Donc la première des questions qui me vient à l'esprit, c'est quel report? Puisque dans le rapport, je n'ai aucun travaux, 2017 affiché par l'assistance à maîtrise d'ouvrage, dans le rapport service public de l'eau, je n'ai pas de travaux. Donc si vous pouviez m'éclairer sur les reports que vous comptez financer avec ce transfert, puisque c'est l'origine de votre délibération, c'est pour financer les reports. Donc je vous pose simplement la question, de quel report parlons-nous? Je vous pose une deuxième question, à supposer que nous ayons des reports. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire, je vous rappelle que la métropole sur l'eau a bénéficié, au titre de 2018, de plus de 115 000 euros de recettes des prêts à détente qui sont affectés au budget de l'eau. Et donc, est-ce qu'avec les 115 000 euros de recettes 2018, la métropole ne peut pas payer les investissements qui aurait été fait en 2018. Parce que je rappelle quand même que dans le cadre d'une délégation de service public, les investissements sont à la charge de Veolia et que normalement, nous n'avons rien à faire puisque justement, on a délégué ce service public. Donc, à partir de là, il n'est pas normal que ce soit le budget principal de la ville, via ce transfert, qui finance une partie des investissements qui auraient été réalisés, parce que je ne sais même pas s'ils ont été réalisés, qui auraient été réalisés par la métropole. Donc je vous demande simplement de reporter cette délibération, d'étudier le dossier et de le représenter si vous estimez qu'il doit être représenté. Mais en tout cas, j'attends des réponses, cette fois claires et nettes. Merci par avance.
Alors, non, pas de réponse. Comme je disais tout à l'heure, on a une commission, toutes ces questions ont déjà été posées en commission, on y a déjà répondu en bonne partie, et M. Parent avait tout le loisir de poser toutes les questions pour qu'on puisse y répondre. Je voudrais revenir de façon générale sur le budget de l'eau. Vous connaissez très bien le problème de l'équilibre du contrat. Quand on est arrivé en 2014, on a récupéré des échanges de mails avec Veolia que vous aviez eu, M. Fior, sur lesquels vous n'aviez rien fait. Alors venir nous donner des leçons aujourd'hui sur un budget de l'eau où vous n'avez plus le courage de faire quoi que ce soit, je dis champion, c'est du fior, ce que vous disiez la fois, vous faites encore du fior aujourd'hui. C'est des grandes gesticulations, des grands appels d'air, et plus ça parle, moins ça dit les choses qui sont vraies. Et je pense que vous dites n'est pas exact, parce qu'en 2014, on a retrouvé tous les échanges de mails avec Veolia, et ce qui avait été décidé d'autre part, c'est surtout de ne rien faire, de ne rien bouger. Chacun autour de cette table sait que le contrat n'était pas équilibré. M. Parent peut en témoigner. Ça a été évoqué plusieurs fois quand on a fait des commissions. Tout le monde sait que le contrat qui avait été négocié n'était pas équilibré pour une raison qui est assez simple. C'est ce qui avait été vendu à l'époque. C'était des volumes d'achat d'eau qui n'ont jamais pu être respectés pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et que donc, il y avait un déficit de ce contrat. Alors, on a augmenté, effectivement, il y a eu une libération qui a fait augmenter le prix de 4,64%, je crois, sur 4 ans, ma foi, ça va. Et on aurait dû, je pense que si l'eau n'était pas passée à la métropole, on aurait été obligé d'augmenter le prix de l'eau de façon très significative pour équilibrer le contrat. Alors, soit vous le savez, soit vous ne le savez pas. Et si vous ne le savez pas, c'est encore pire. Et c'était mathématique et chacun savait qu'il fallait renégocier le prix de l'eau. Le passage en métropole nous a exonéré de cette hausse qui avoisinait les 17%. J'en parle devant tous mes élus parce qu'on avait évoqué le sujet en conseil de majorité. Et quand j'avais dit qu'il fallait augmenter le prix de l'eau de 17%, il n'y avait pas beaucoup qui étaient d'accord autour de la table. Mais j'étais prêt à le faire, parce qu'il fallait le faire. Et en fait, il y a eu le passage en métropole, on a discuté avec TPM, et TPM nous a dit, on va renégocier le contrat, donc on met en stand-by, et la renégociation éventuelle d'un prix se fera dans le cadre d'un marché global, ou d'une DSP globale. Je pense qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises en ce moment par TPM, et c'est l'avantage de passer en métropole, c'est plutôt d'avoir des syndicats d'achat dans tous les sens, on ne sait plus qui revend de l'eau, qui en achète à qui, d'avoir des DSP dans tous les sens, on a aussi des régies municipales dans certaines communes. L'idée, c'est de rationaliser tout ça, et au final, d'avoir des contribuables qui sont gagnants, parce que l'objectif, et je pense qu'on arrivera à le tenir sur la commune du Pradet, le prix de l'eau, 2,45, Christian vous donnera le tarif de l'eau dans les différentes communes, on a un tarif de l'eau qui est tout à fait raisonnable. Je pense que grâce au passage en métropole, ça va nous permettre à la fois de nous organiser mieux, et puis aussi d'avoir un pouvoir de négociation par rapport à un Veolia qui va être plus fort que si on était resté en commune. C'est aussi un des intérêts de passer en métropole. Et je pense qu'à terme, on envisage, nous, de pouvoir baisser le prix de l'eau. J'espère qu'on arrivera à tenir cet engagement. En tout cas, on met beaucoup d'énergie pour que ça se passe de cette façon-là. Et j'espère qu'on arrivera à tenir nos engagements, à baisser le prix de l'eau. En tout cas, ça, on s'oriente dans cette direction. Alors, à titre indicatif, le prix de l'eau à Lacro, 2,45. Carcaran, je crois que je mets des lunettes, 2,64. Toulon, 2,42, 2,41 et 2,23 pour le Pradec. Donc franchement, il y a peut-être une augmentation de 4%, mais on reste en dessous du prix de beaucoup d'autres communes. Et je pense qu'on restera dans cette configuration en passage métropole, et j'espère même qu'on pourra faire mieux.
Merci. Alors, premièrement, je note que vous ne m'avez pas répondu. Voilà. Parce que, d'une part, vous ne connaissez pas vos dossiers. Deuxièmement, vous êtes un menteur. Voilà.
Non, je pense que. Alors, non, monsieur Fior, on peut dire que je ne suis pas exact, que je suis imprécis. Ne traitez pas les gens de menteurs, c'est une question de politesse et d'éducation.
Oh, c'est vous m'avez accusé de faire des grands moulinets, etc. Alors, je vais vous le démontrer que vous êtes un menteur.
Fior, n'utilisez pas des mots comme ça. Non, mais je veux pas, moi j'ai la responsabilité de la police de l'Assemblée. Je veux pas qu'un de mes élus vous traite de menteur. Moi je vous traite pas de menteur et je veux pas que vous traitiez les gens menteurs. De la correction dans toute chose.
Je vais être correct, monsieur le maire. Et je suis correct. Alors, dans tout ce que vous avez dit, premièrement, j'étais bien au courant du contrat avec Veolia. Oui. Bien évidemment que j'étais au courant du contrat avec Veolia. Nous n'avons rien fait. Oui. Nous n'avons rien fait. Effectivement, nous n'avons pas voulu, pour toutes les raisons que je vous ai exposées, nous n'avons pas voulu renégocier la DSP, augmenter le prix de l'eau pour faire plaisir à Veolia, alors que Veolia n'avait pas d'argument probant sur le sujet. Donc nous avons discuté avec Veolia. Vous êtes pris en défaut vous-même. Vous transférez le budget de l'eau à la métropole, et qu'est-ce que vous dit la métropole? Ah ben non, stand-by, on ne va pas renégocier avec Veolia. Je vous ai traité de menteur. Pourquoi? Parce que, monsieur le maire...
Parce que vous appelez monsieur Fior?
Non, non. Je m'appelle bien monsieur Fior, oui, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je vous dis que vous mentez sur certains sujets.
Monsieur Pierre, encore une fois, et on passe directement au vote. Donc, je vous laisse parler. Une fois, la dernière fois, avec correction, si on passe directement au vote, vous n'avez plus le droit à la parole sur ces délibérations. De la correction, et encore de la correction, s'il vous plaît.
De la franchise, de la vérité et de la transparence, ça sera nettement mieux. Voilà. Pas le dernier conseil métropolitain, mais celui d'avant, vous avez voté une délibération sur l'eau. Voté, je ne sais pas si vous le savez, hein. Vous ne le dites pas, mais vous le savez. Vous avez voté la mise en DSP pour le 1er janvier 2020 jusqu'au 1er janvier 2027 de l'eau en liaison avec Toulon pour la ville du Pradé. Donc vous avez voté le principe d'une DSP, voilà, en liaison avec le prix de l'eau de Toulon. Le prix de l'eau de Toulon, c'est 2,42. Le prix de l'eau du Pradé, c'est 2,26 en 2017. D'abord, vous ne le dites pas. Deuxièmement, contrairement à ce que vous nous avez indiqué, le prix de l'eau, si 5% d'augmentation du prix de l'eau, c'est rien pour vous, c'est pas la même chose pour les Pradétans. Troisièmement, augmenter le prix de l'eau, ça peut avoir du sens si vous avez un service et si vous êtes dans la légalité pour le faire. En l'espèce, vous n'avez rien répondu sur la surtaxe communale. Aujourd'hui, les Pradétans, ils payent 10 euros de surtaxe communale. Ça fait 115 000 euros de recettes pour la métropole. Expliquez-moi à quoi vont servir ces 115 000 euros en 2018, en 2019, en 2020. Ça fait plus de 300 000 euros. Ensuite, je vous ai demandé quels étaient les reports d'investissement qui justifient votre délibération. Votre délibération, elle dit, je transfère 56 000 euros de mémoire, je crois que c'est ça, ou en fonctionnement.
Non, c'est un investissement qu'on fait. 74 000 euros.
Merci.
Pour 90 000 euros de report.
Oui, merci. Je savais, j'avais lu le compte administratif. Je vous ai demandé lesquels, M. Perratou. Donc, vous transférez 74 000 euros pour financer des reports d'investissement. C'est bien ce que je dis et on est bien d'accord là-dessus. Je vous demande simplement lesquels. Oui, mais vous ne me répondez jamais. Et je vous explique qu'avec 115 000 euros de recettes, on doit être capable de financer 90 000 euros d'excédent de reports d'investissement. Et ça, vous ne me répondez pas non plus. Voilà. Et après, vous me donnez des leçons.
Merci de votre intervention, elle aura bien fini, en toute correction. Monsieur Meurier, une intervention?
Oui, merci. Déjà, voyez l'énergie que nous coûte la métropolisation. Je ne sais pas si on peut le calculer en kilojoules. Je ne sais pas, ça serait assez important. Moi, j'ai une question, oui, sur Veolia. Donc, dans son rapport de présentation, on voit que Veolia respecte ses engagements depuis 2014 sur les rendements fixés à 82% à compter du 1er avril 2008. Donc c'est seulement depuis 2014 qu'ils sont parvenus à ce rendement. Nous sommes aujourd'hui à 85%, ce qui signifie que sur 100 litres introduits dans le réseau, 85 sont consommés, donc vendus, mais 15 sont perdus. Donc c'est la page 9 et la page 14. un an, les pertes représentent la consommation d'eau de 2000 personnes environ. Est-il prévu des remplacements de conduites et branchements vétustes et à quel rythme sommes-nous dans la moyenne des villes de la métropole? Merci.
Tu veux répondre, Paul? Paul Borou va vous répondre.
Au niveau du réseau d'eau, vous n'avez pas entendu, nous sommes aujourd'hui, il n'y a plus de réseau à modifier au niveau de l'eau. Le dernier qui a été fait, c'est le chemin sans père. Donc il a été fait cette année en 2018. C'est pour ça qu'il ne figure pas. Donc 300 et quelques mètres de réseau d'eau qui ont été refaits.
Si, M. Fior, une dernière intervention en vote.
Et je vais me permettre de répondre à M. Meurier puisqu'il n'a pas eu de réponse. Pourquoi la sectorisation, pourquoi on est passé à 85% de taux de performance du réseau, uniquement parce que l'ancienne municipalité a décidé, parce qu'elle en avait marre, qu'il y ait 25% de l'eau consommée qui partait dans la nature, a décidé de faire des travaux et a sectorisé pour permettre une détection des fuites de manière beaucoup plus intéressante sur le réseau. Donc la ville, sur son budget, a fait des travaux de sectorisation. Elle n'était pas obligée de le faire. Normalement, c'était pour le compte du DSP. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces travaux-là, au-delà de l'intérêt général pour tout un chacun de, qu'une ville ne perde pas son eau, ont eu pour conséquence de permettre à Veolia de ne pas avoir à acheter d'eau. Et donc, c'était un gain pour Veolia, alors que c'était les travaux de la ville. Donc, c'était intéressant d'un point de vue d'intérêt général, mais c'était encore plus intéressant pour Veolia. Et ça faisait partie de la négociation à l'époque des sujets qui nous opposaient entre les pénalités d'un côté parce qu'ils ne respectaient pas leur contrat, la performance du réseau qui n'était pas tenue, les travaux qu'on a fait à leur place alors que dans une cadre d'une DSP, c'est eux qui doivent faire les travaux. Et donc ça fait partie de cet ensemble de choses. Pour votre information, 85%, plus de 85%, c'est parmi les meilleurs meilleur indice de performance du réseau en eau sur des collectivités. Voilà.
Parfait, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, donc. Alors, on va refaire le vote. Qui est contre? On vote la 8 pour l'instant. Parce qu'on m'a demandé... C'est ça pour qu'il n'y ait qu'une intervention, qui était dense, hein, mais... Je vote la délibération numéro 8. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà. La 2 maintenant. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Donc on reprend le fonctionnement, l'ordre numérique. Donc maintenant c'est la DM numéro 1 du budget principal. Jean-Michel Perratou.
Décision modificative numéro 1 du budget principal. Présenté a notamment pour objet d'ajuster les crédits relatifs aux attributions de compensation suite au rapport de la CLECT du 21 juin 2018. En effet, afin de ne pas pénaliser la trésorerie des communes et dans le cadre des conventions de gestion transitoire, TPM a continué le versement mensuel de l'attribution de compensation basé sur le montant 2017 jusqu'en août. Après la tenue de la CLECT, il convient aujourd'hui d'ajuster les crédits en fonction de l'attribution de compensation 2018. D'inscrire les crédits nécessaires pour une opération de refinancement de la dette à des conditions plus favorables. À savoir, nous avons remboursé un emprunt dont le taux variable était à 2,3% pour un nouveau prêt à taux fixe de 1,25%. D'intégrer dans le budget principal les résultats de fonctionnement et d'investissement du budget annexe de l'eau, potable dissous le 31-12-2017. D'inscrire les crédits correspondants au transfert du résultat d'investissement à la métropole TPM afin de financer les reports pris en charge par le budget de l'eau potable métropolitain. La décision modificative s'établit comme suit. Au niveau du fonctionnement, il y a 600 000 euros. Dont le résultat de fonctionnement de l'eau à 56 000 et l'attribution de compensation à 600 000. La section d'investissement s'établit à 1,027 000, dans lequel il y a le résultat d'investissement à 74 000 Il y a le refinancement de la dette à 500 000. Il y a l'attribution de compensation d'investissement à 437 000. Voilà.
Merci. Des questions? Pas de questions. On va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération numéro 4, ça concerne les admissions en nos valeurs. Jean-Michel Perratou.
Dans le cadre de la purement périodique des comptes entre l'ordonnateur et le comptable, le trésorier a proposé l'admission en nos valeurs d'un certain nombre de créances détenues par la commune du Pralay. L'admission en nos valeurs d'une créance a pour résultat d'apurer la prise en, sa prise en charge. Elle ne libère pas pour autant le redevable. Le recouvrement devra être pris de si le débiteur revient à meilleure fortune. Il est ainsi proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur les titres non recouvrés figurant sur les états présentés par le trésorier pour un montant global de 229 386. La dépense en résultant sera imputée à l'article 65-41, créance admise en non-valeur, pour 23 294 et l'article 65-42, créance éteinte pour 206 092.
Merci. Question de M. Fior, allez-y.
Oui, s'agissant de montants conséquents, est-ce qu'il serait possible d'avoir la liste? Comment ça, non? Ah, mais, d'abord, c'est une obligation légale, M. Perato. Il faudrait quand même arrêter le jeu. Hein. Premièrement,
vous devriez le savoir d'ailleurs, ça fait partie ces GPLA, la mouline, sur lequel il y a eu 450 000, donc 200 000 l'année dernière, 250 000 l'année dernière et 200 000 cette année. Voilà.
C'est déjà gentil de le dire.
Alors, je suis extrêmement surpris que vous reveniez sur le sujet. Parce que si on avait bien géré le dossier, si vous aviez bien géré le dossier, on n'aurait pas été à passer une provision de 450 000 euros. Ce dossier, non, mais écoutez, vous demandez des comptes, etc., mais 200 000 euros, c'est votre gestion. Et ce n'est pas 200 000, c'est 400 000 euros que la commune a perdu, parce que vous n'avez pas géré le dossier. Voilà, c'était ça.
Excusez-moi, vous voulez que je vous requalifie, encore une fois?
Si, non, je vais en passer.
Alors, redites la vérité.
La vérité, celle que je viens vous dire.
Non, la vérité, ce n'est pas ça du tout, monsieur le maire. Vous le savez très bien, vous étiez là. GPLA, c'est un titre de recette qui aurait dû être émis quand? Sous M. Joffre. On arrive au pouvoir, on s'aperçoit que ce titre n'a pas été émis. Qu'est-ce qu'on fait? On l'émet. Il y a un contentieux. Qui gère le contentieux, monsieur le maire? C'est vous. Vous abandonnez le contentieux où il y a une décision, je ne sais pas, où il y a une décision de première instance qui donne tort à la commune. Vous ne faites pas appel. Dont acte. Pour le moment, moi, j'avais pris des provisions sur 5 ans de manière à ce que vous ne soyez pas budgétairement impacté. Ben oui. Et vous avez passé la perte et vous avez repris les provisions. Et vous m'accusez, moi. Voilà la vérité, monsieur le maire. Donc, vous voyez, ça ne correspond pas tout à fait à vos propos. Donc, ça mériterait encore une fois.
Le micro, s'il vous plaît. Si vous estimez que vous avez bien géré le dossier, c'est votre point de vue, ce n'est pas le nôtre. Il y a un titre qui a été émis, il fallait refaire une procédure pour émettre un titre qui soit recouvrable, ça n'a pas été le cas. Sur le conseil du Trésor, on a essayé, hein, avec M. Lombardon, on a tout essayé, on n'a pas réussi. Voilà. Mais c'est votre gestion qui est en cause sur de l'argent. C'est vous qui nous avez demandé des comptes sur les 200 000 euros. On vous rend des comptes. Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Qui est pour? Vous ne votez pas? Ok, ils sont pour. Merci. Délibération numéro 5. Présentation des comptes annuels de la SAGEP 2017. Paul Moureau.
Conformément à la réglementation, la société d'aménagement et de gestion publique SAGEP, SIS à la garde, dont est membre la ville du Pradé, nous saisit pour présentation de ses comptes annuels et donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur l'adoption des comptes 2017. Ces comptes se caractérisent par un bénéfice de 54 732 euros. Ils ont fait l'objet d'un contrôle par le commissaire aux comptes. Concrètement, la SAGEP a été missionnée pour mener trois dossiers sur notre commune. Un, le CTM qui a été livré, trois logements qui ont été livrés, et actuellement la bibliothèque et la ludothèque qui sont en cours. La direction générale de la SAGEP, dont sa directrice adjointe et plusieurs ingénieurs et techniciens, travaillent au quotidien sur le dossier. La direction des services techniques de la ville ont confirmé être satisfaits de leur implication et de leur travail, de même que les élus qui s'occupent des dossiers, qui sont concernés et qui amènent toute satisfaction. Nous continuerons donc à utiliser les services et les compétences de la SAGEP.
Merci. Pas de questions. Une question, M. Fiorelli.
Merci. Une remarque simplement, ce n'est pas une question. Je suis très content de voir que la SAGEP gagne de l'argent. Très bien. En termes de transparence et d'information du conseil municipal, le fait de savoir que le bilan de la SAGEP nous est fourni nous est d'une extrême est extrêmement intéressant. Par contre, le fait que ça soit une maîtrise d'ouvrage déléguée, que vous ne nous dites jamais un mot sur l'état d'avancement des relations avec la SAGEP, ça, je laisse les bras des temps juger. Hein. Voilà.
Alors, on va passer. Oui, effectivement, ils jugeront sur ce qu'on a réussi à faire avec la SAGEP, à faire avancer les dossiers pour certains qui étaient bloqués depuis un petit moment. Voilà. Les bras des temps jugeront, vous l'avez dit, sur un certain nombre de sujets. Alors, qui est contre ? Trois actes, on ne vote pas. Donc, je vous remercie de prendre acte. Donc, la délibération numéro 6 maintenant, ça concerne l'acquisition de locaux pour les besoins de la police municipale. Jean-François Plane.
Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Ça concerne donc l'acquisition de locaux pour les besoins de la police municipale. Vous avez tous lu l'origine des locaux dans lesquels la police municipale se situe en ce moment. Donc, outre l'aspect précaire de l'occupation actuelle, les effectifs de la police municipale ont évolué au cours de ces dernières années. Et donc, les locaux qu'elle utilise aujourd'hui ne sont plus adaptés à ses besoins actuels. La municipalité souhaite donc saisir l'opportunité de la réorganisation de la poste pour acquérir des locaux désormais vacants à l'entresol. L'immeuble qu'elle occupe est situé à la place de l'Armée d'Afrique sur la parcelle cadastrée AD273, classée en zone UB au plan local d'urbanisme. Il s'agit d'une surface d'environ 140 mètres carrés. Cette acquisition permettra donc à la police municipale de disposer de locaux plus spacieux, mieux sécurisés, idéalement situés en cœur de ville et facilement accessibles au public. Cette opération permettra également à la commune de ne plus louer, mais d'investir ainsi, de baisser les charges de fonctionnement. Vous avez lu l'estimation de France Domaine qui s'élève à 210 000 euros. Par conséquent, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le bon fondé de cette transaction, d'accepter le montant de l'acquisition et d'autoriser M. le maire à signer tous les actes subséquents et les pièces nécessaires à cette mise en œuvre et à l'authentification de celle-ci.
Merci. Monsieur Murier.
Oui, j'ai plusieurs questions. Les policiers municipaux ont-ils été consultés pour ce projet? Ont-ils formulé des vœux ou des remarques? Comment cela va-t-il se passer les jours de marché? N'y a-t-il pas un risque de saturation des accès et donc de difficultés pour partir en intervention? À combien estimez-vous les coûts des travaux de rénovation prévus? Et à votre connaissance, qu'est-ce qui motive la poste à se réorganiser? Doit-on craindre à terme une fermeture? Merci.
Alors, écoutez, M. Murier, je veux répondre à pas mal de choses, mais je pense qu'en ce qui concerne la poste, je serai bien dans les capacités de vous répondre. Vous comprenez bien que ce n'est pas de mon fait si la poste se réorganise. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce que vous dites tombe sous le sens et nous y avions bien évidemment réfléchi. La priorité étant d'abord à ce que le conseil municipal et vous, M. Murier en premier, donniez votre avis justement sur cette acquisition. C'est quand même vous qui représentez entreprise au niveau du conseil municipal, moyen emploi. Vous comprenez bien qu'on ne travaille pas quand on a une délégation de ce type-là sans utiliser une certaine humanité et d'une manière comme une nôtre, être attaché au personnel qui a un travail très difficile, il faut bien le reconnaître. Donc on essaye de lui apporter une situation adaptée au travail qu'il est obligé de faire. Moyennant quoi, nous allons essayer de lui ordonner des locaux qui feront à peu près, si vous avez bien tout compris, le double de superficie que les locaux actuels. Ce qui est quand même, il faut le reconnaître, facile. Ensuite, forcément, pour l'installation de ces locaux, il va de soi que techniquement, on a besoin de toute façon de leur matière grise pour qu'ils arrivent à nous aider et qu'ils arrivent éventuellement à nous donner la substantielle moelle de leurs idées en même temps et éventuellement nous permettre de faire en sorte que les locaux soient adaptés à des policiers municipaux. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez vraiment pas, je vous répondrai. Si c'est pour l'histoire du marché, c'est très simple. L'histoire du marché, effectivement, on y a bien pensé, parce que effectivement, la situation se trouve un petit peu engoncée au niveau du marché, qui ne dure malgré tout. Je vous le rappelle que le vendredi matin, ce qui n'est quand même pas sur une plage hebdomadaire quelque chose de très important, mais il est bien évident, de toute façon, les véhicules seront sortis de la zone. D'ailleurs, ils n'auront certainement pas dans cette zone en permanence, soyez-en certains, et le personnel, de toute façon, sera mis en des postes bien précis pour pouvoir intervenir avec rapidité et vélocité, évidemment.
Oui, alors, il y a encore la question aussi des coûts des travaux de rénovation. Merci.
C'est ce que je vous expliquais, on va justement prendre avec les policiers municipaux le temps, parce que là vous avez bien compris, c'est une acquisition, on n'est pas rendu aux travaux, la Poste est actuellement, vous avez remarqué, en train de faire des travaux d'aménagement, justement, pour qu'il y ait une séparation de la Poste et, on va dire, des locaux que l'on va acquérir, et à ce moment-là, une fois que tout sera bien fait, on pourra effectivement prendre une société qui nous fera, avec l'aide des policiers municipaux, soyez-en sûrs, quelque chose adapté.
Merci. On va passer au vote. Monsieur Fioralzi.
Monsieur Plane, merci beaucoup pour ces explications qui éclairent un peu mieux la délibération. En ce qui nous concerne, on trouve qu'effectivement, a priori, c'est un projet intelligent, en tout cas plus intelligent que celui de transférer les policiers municipaux au CCAS, puisqu'il y avait eu un certain nombre de rumeurs qui laissaient entendre que le CCAS pouvait accueillir des policiers municipaux. Donc on vous suit sur ce terrain-là. On est sensible à l'engagement que vous avez pris d'écouter les policiers municipaux s'agissant d'une opération d'investissement, de ne pas mégoter sur l'investissement parce que ce n'est pas pour 2 ans, 3 ans, mais c'est pour un montant plus important. Donc autant faire les choses bien pour eux, pour nous, pour vous. Et donc, on vous fait confiance sur le sujet, et donc on sera avec vous là-dessus. Merci.
Merci à tout le monde.
Merci. C'est vrai qu'ils ont fait un travail. C'est pas un métier facile, Jean-François l'a souligné. Voilà, bon, c'est vrai que les services techniques aussi, un certain nombre d'autres services, comme le service événementiel, sont soumis à rude épreuve l'été. Et le travail de policier municipal, c'est pas un métier facile, mais ils font un super boulot au Pradet. Et j'ai eu beaucoup d'échos de beaucoup de Pradetans cet été. On va passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient, qui est pour unanimité, je vous remercie. Alors, délibération numéro 7, ça concerne la vente aux enchères d'un terrain communal issu de la parcelle 640. Christian Garnier.
Merci, monsieur le maire. Bonjour. Oui, il s'agit de la vente donc d'un terrain communal qui est dans le rue des Eucalyptus, au quartier Saint-Avis. C'est une parcelle qui fait une superficie de 509 mètres carrés après détachement de la partie qui servait de stationnement pour les résidents du quartier. Ce terrain est classé dans la zone UC au plan urbanisme. Il s'agit d'une zone mixte à dominante résidentielle constituée de petits habitats individuels et de petits collectifs. Nous avions déjà délibéré pour une cession d'une partie de cette parcelle au profit de la copropriété Le Mosa. 509 mètres carrés, mais on vous propose d'autoriser le maire à en réaliser la vente, la cession. Il est certain que le règlement de l'acquisition de cette parcelle est pour l'objet unique d'une maison individuelle avec une surface de plancher maximum de 200 mètres, 50 mètres carrés.
Fior, merci. Fior.
Monsieur Garnier, dans la délibération est indiqué la commune souhaite limiter la constructibilité sur cette parcelle à la réalisation d'une habitation individuelle d'un seul logement et d'une surface de 250 mètres carrés, comme vous l'avez dit. Et donc en lisant ça, je me suis dit, mais quelles sont les règles du PLU applicables à la zone? Ça laisse sous-entendre qu'il y a un taux de constructibilité supérieur à ce que vous venez d'énoncer dans la délibération.
C'est de la zone UC, effectivement, et vous savez que depuis la loi de Madame Duflo,
Et alors, la deuxième question, comment on fait respecter une règle qui n'est pas inscrite dans le PLU? Comment on fait respecter cette volonté-là? De quelle manière, juridiquement, vous faites respecter cette volonté-là?
On demandera, ce sera dans l'acte, ce sera la condition de cession de la propriété, puisque l'évaluation de la propriété au prix des domaines qui a été noté tient compte de ce cahier des charges.
Adjoint d'urbanisme, supposant que j'achète cette propriété avec cet engagement-là, et que je la revends. Est-ce que c'est un engagement qui va perdurer à chaque revente ad vitam aeternam, indépendamment de toutes les règles du PLU, ou est-ce que c'est un engagement qui ne va durer que pour l'acquéreur initial?
C'est un engagement qui sera inscrit d'une façon définitive attaché à cette parcelle.
J'aimerais bien que vous me le réexpliquiez la prochaine fois en dehors du conseil, parce que ça, c'est pas quelque chose que je connais. Donc, si c'est possible, pourquoi pas, j'aimerais bien que ça éclairera ma lanterne. Merci.
Merci, on va passer au vote. S'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Attendez, M. Meurier? Pour, okay. À unanimité donc, hein. Merci. Alors la 8, M. Fur a déjà pris la parole. Délibération numéro 9, Valérie Rialand, ça concerne la signature d'une convention d'objectifs et de moyens avec une association art et musique.
Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Il s'agit de mettre en place une convention avec l'association Art et Musique qui œuvre dans le domaine culturel et propose des activités musicales et artistiques au printemps. Elle intervient aussi dans les écoles municipales pendant la pause méridienne. Je vous remercie.
Merci. Pas de questions. Monsieur Fior, une question.
Madame Rialand, j'ai pas bien compris la délibération. Est-ce que c'est une subvention de 500 euros? Est-ce que c'est une subvention de 500 euros plus 5 650 euros? Est-ce que c'est une subvention de 5 650 euros?
Je peux vous réexpliquer si vous voulez. On a voté dans le budget la subvention de 500 euros déjà. Et dans le cadre de la pause méridienne en plus, il y a les 5 600 euros, effectivement. Donc c'est 5 600 plus 500. Ça va, c'est clair?
Non. Dans la convention que vous nous avez joint, j'ai bien une subvention de 500 euros. Alors, vous nous dites qu'on l'a déjà voté, celle-là? Non, mais le budget, on a voté le budget, mais on n'a pas voté de subvention.
Bah, sur la fiche
Oui, si vous voulez, d'accord. Et
Et donc là, l'objet de cette délibération, c'est les 5650 alors ?
L'objet de cette délibération, c'est de mettre à plat l'ensemble de la collaboration que nous avons avec cette association. Vous vous plaignez d'habitude qu'on ne vous présente pas assez des choses. Là, on vous les donne et ça ne vous va pas encore. Alors moi, je ne sais pas quoi.
Je n'ai pas dit que ça ne m'allait pas.
En fait, vous gênez tout le temps quoi.
D'accord, ça c'est extrêmement constructif, merci. Mais bon, d'accord, si vous le prenez comme ça. J'ai osé vous poser une question sur une convention. Franchement, je suis désolé, madame Rialan.
Non, mais je vous ai répondu, ceci dit.
Ceci dit, oui, ceci dit, ça n'a rien d'une subvention. Ça s'appelle une prestation de service. Vous achetez une prestation de service à une association. Mais ce n'est pas une subvention, puisqu'il y a une contrepartie.
C'est encore vous qui dites que vous aimez bien mettre la suspicion dans
tout ce
que vous affirmez. Mais si, vous faites ça toutes les questions. Allez, une petite suspicion par-ci, une petite suspicion par-là. Et là. Mais bien sûr que si, vous faites ça à chaque fois.
Mais le principe d'une subvention, c'est qu'il n'y a pas de
contrepartie. La façon dont vous l'êtes perçue, nous, on a bien compris. Mais ce n'est pas grave.
Très bien. Allez, on va vous suivre, madame Rialan. On a compris avec vos explications. Merci.
Merci, on va passer au vote. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité, je vous remercie. Christian Garnier pour une fusion-absorption du comité territorial de rugby avec la Ligue Sud-PACA.
Oui, alors, ça concerne effectivement une des conséquences de la fusion-absorption du comité territorial de rugby. Suite à une opération de fusion, donc... comité territorial de rugby Côte d'Azur avec la Ligue Sud PACA de rugby au 1er juillet 2018. Il a été décidé du transfert de la totalité des contrats des divers prestataires et partenaires. Dans ce cadre, et à la demande de la trésorerie, il convient d'acter ce changement de dénomination dans les actes qui lient la commune du Pradé avec le comité territorial de Côte d'Azur de rugby, à savoir le bail amphithéâtique administratif conclu le 21 novembre 2011 pour la réalisation de la maison régionale du rugby et de centre de formation permanent, ainsi que le bail d'habitation conclu le 1er juillet 2013 pour une durée de 6 ans renouvelable pour un appartement de 70 mètres carrés au premier étage de la maison de rugby. Il est certain que c'est uniquement le changement, il s'agit d'acter uniquement le changement de dénomination des titulaires des baux. Il est demandé donc au conseil municipal d'autoriser M. le maire à prendre tout acte permettant de remplacer le titre comité territorial de Côte d'Azur de rugby par Ligue Sud PACA de rugby dans les deux documents cités. Merci.
Merci. Pas de questions, passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 11. C'est l'adhésion à une association dans le cadre du PCS. Jean-François Plath.
Je pense que vous avez tous lu et que vous connaissez tous parfaitement les diverses lois et décrets concernant le PCS. Donc je vais vous en faire grâce. Je vais aller directement au but, qui est en fait de rénover des documents existants et de rendre opérationnelle l'organisation de la collectivité dans les gestions de crise lors de la survenue d'un risque majeur, naturel, technologique, et dans le but surtout d'intégrer de nouveaux risques tels que le risque attentat, tuerie de masse, et les plans particuliers de mise en sécurité des établissements scolaires de la commune du Pradé. Donc, nous souhaitons adhérer à l'association CIPRES, dont la mission principale constitue d'assister les conseillers des collectivités dans l'ensemble de leurs actions, et également sensibiliser les élus et le personnel municipal aux risques, élaborer ainsi un montage et observation d'exercices de sécurité civile, d'assurer l'information préventive sur les risques majeurs avec une campagne d'information de la population, une sensibilisation auprès des scolaires, et etc., etc. L'adhésion au CIPRES s'élève à 1600 euros par an pour la commune. Par ailleurs, nous souhaitons également être accompagnés pour l'élaboration du PCS dans le cadre de l'adhésion annuelle, ce qui comprend des conseils méthodologiques, la mise à disposition de modèles de documents, la production de cartographie, la rédaction du DICRIM sur un modèle proposé et la participation à des réunions de travail que la commune organise. Cet accompagnement s'élève à 3 960 euros TTC. Donc, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le bien fondé de cette adhésion, d'accepter le montant de base proposé pour l'adhésion
Merci, Monsieur Meurier.
Merci, Monsieur Plan. Merci, Monsieur Meurier. Dans le but d'intégrer de nouveaux risques, tels que le risque d'attentat, tuerie de masse et les plans particuliers de mise en sûreté des établissements scolaires. Alors, est-ce que vous envisagez l'adhésion à cette association CIPRES pendant plusieurs années ou seulement durant un an, le temps que le plan communal de sauvegarde soit mis à jour? D'autres communes de la métropole, notamment la Valette du Var, ont été ou sont encore membres de cette association et a pu bénéficier de son expertise. Vous êtes-vous rapproché d'autres mairies pour obtenir des retours d'expérience? Rénover les documents existants, c'est une chose, mais est-ce que finalement vous préparez un volet équipement? Aujourd'hui, 24 septembre, une information de France Info nous apprend que les équipes du SAMU du Var vont être équipées de gilets pare-balles. Doit-on s'attendre à la même chose pour nos professeurs et nos écoliers? Merci.
Bien. Alors, en ce qui concerne, je vais faire une réponse un petit peu identique à celle que j'ai faite tout à l'heure, hein, comme pour la poste, en ce qui concerne les professeurs et les écoliers. Je pense que si ce sera l'éducation nationale qui sera quelque part concernée en priorité. Mais c'est vrai que je comprends votre question, ne croyez pas que je ne la comprends pas. C'est vrai qu'on peut craindre beaucoup de choses et qu'on peut diaboliser beaucoup de choses. Mais on fait surtout de la prévention lorsqu'on fait de la sûreté et de la sécurité. Donc pour le moment, effectivement, on fait de la prévention. Je n'ai pas que par contre compris dans votre question, vous avez parlé à un moment de matériel. Alors je n'ai pas trop bien saisi exactement ce que vous vouliez me poser comme question. Si vous pouvez me préciser.
Ouais, merci. Donc voilà, en fait, l'adhésion. Coûte 1 600 euros par an. On a aussi l'aide à la rédaction du plan communal qui s'élève à un petit peu moins de 4 000 euros. Voilà. Donc ça, finalement, ça va concerner des documents. Mais est-ce qu'il y a un volet équipement finalement qui est prévu aussi?
Donc ça va, j'avais bien compris. En fait, ça fait depuis plusieurs années que nous avons récupéré autant que possible ce soir subventions justement pour équiper la commune de matériel justement en cas de crise grave. Et nous avons effectivement du matériel qui est à la disposition de la commune au titre du PCS. Et nous avons également la possibilité d'utiliser du matériel par rapport au plan communal, intercommunal, de sauvegarde qui, lui, par contre, se situe dans diverses communes. Nous, éventuellement, on peut être amené à aider une autre commune, c'est possible. Voilà. Donc du matériel, soyez rassurés, nous avons ce qu'il faut. Si vous souhaitez éventuellement, d'ailleurs, je suis, vous savez, quelqu'un de très ouvert, et si vous voulez venir me prendre rendez-vous avec moi, je vous expliquerai tout un tas de choses et vous verrez que nous sommes quand même pas mal. Je vous remercie.
Parfait, merci. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc, on a fini avec le conseil municipal. Les décisions en communication ont été annexées à l'envoi. Et M. Fior va nous poser une question sur les décisions en communication.
Merci. Sur la première, les tarifs du mondial de la moule, je regrette de ne pas l'avoir eu lors du précédent conseil, puisque c'est une décision du 10 mai, et sur laquelle vous auriez dû nous la transmettre au précédent conseil, on aurait passé des vacances encore meilleures. Donc, je le regrette, mais bon, elle arrive aujourd'hui, pas trop tard, le mondial n'est pas encore commencé. Sur la deuxième, et pourquoi une dissolution rétroactive de la régie de recettes des sanitaires publics que vous déclarez dissoute en date du 4 juin 2015.
On ne fait plus payer les bâtiments publics, ça n'a jamais été marché d'ailleurs.
Non mais moi je suis d'accord, il n'y a pas de sujet sur le principe, mais ça veut dire que si vous ne les utilisez plus...
Enfin, on les sait encore utiliser, mais on ne fait plus payer.
Donc, si vous ne faites
payé depuis 2015, c'est bien de vous en rendre compte en 2018, très bien, mais il y avait quand même un régisseur, lequel, lui, percevait une prime. Si vous la déclarez dissoute 2015, ça veut dire que vous êtes dans l'obligation de rappeler la prime du régisseur de 2015 à 2018, monsieur le maire. Outre que les actes administratifs n'ont pas d'effet rétroactif, mais bon, on peut passer outre, très bien, mais là, vous vous mettez en difficulté vis-à-vis de cette personne. Bon, maintenant, si vous voulez pas... Voilà.
Merci. Pas d'autre... Monsieur Meurier, allez-y.
Oui, sur la décision, donc sur la stratégie communale de prospection et d'éradication de la Colerpa taxifolia. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les actions entreprises? Est-ce que la Colerpa taxifolia, l'algue tueuse, est en progression ou en régression? Merci.
Oui, c'est une action qui est en continuité depuis un certain nombre d'années. Je reconnaîtrais que nos collègues, nos prédécesseurs, l'avaient déjà engagé. Ce n'est pas une invention, c'est quelque chose qui est mené avec une certaine continuité. Donc des équipes de plongeurs sont mobilisées pour exercer à la fois une surveillance dans la baie de la Garonne. Cette surveillance se concrétise également par des journées d'action, d'éradication, c'est-à-dire que lorsqu'on a repéré des éléments de taxifolia, ils sont localisés, et ensuite il y a une journée pour procéder à l'évacuation, à la destruction de ces herbiers. Tout ça en relation également avec le parc national du Porto maintenant, parce qu'ils assument une surveillance sur tous les territoires, et notamment sur les territoires qui sont dans les communes adhérentes au parc national. Ça permet non seulement d'éradiquer la taxifolia qui est en voie de disparition, mais de constater la venue éventuellement de nouvelles espèces à la fois dans la végétale, mais aussi animale, et donc de faire des signalements en relation avec le parc national qui gère l'ensemble de ces signalements pour déterminer une politique globale.
Des bonnettes et la suppression de la régie. Avant d'arriver à la suppression de la régie, est-ce que vous pouvez simplement nous rappeler la chronologie? Parce qu'en juin 2016, on avait voté tout un tas de modifications. On avait une DSP normalement qui courait du 15 mai 2015 à 2019. Et là, on en arrive à la suppression de la régie au 1er juin 2018. Donc je suppose que sur la campagne 2018, la saison 2018, il n'y a eu personne. Donc, juste la chronologie, comment on est passé de la DSP à la régie et pourquoi on ferme la régie aujourd'hui?
Alors, on ferme la régie parce que tout simplement, nous avions décidé au départ de remettre une DSP, mais l'idée était, si vous vous souvenez bien, d'inverser les pompiers. On avait d'ailleurs, on en avait parlé. Sauf que, après travail avec la DDTM, et on a revu tous les traits de côte au niveau des plages, en fait, toute la concession, pardon, avec la DTM, la concession de plage. Et du coup, c'est rentré dans leur processus général de révision. Donc, vous savez, ça prend du temps. Il faut à la fois qu'il y ait une enquête, ça, Christian pourra me répondre mieux que moi sur le déroulé de la concession de plage avec la DDTM. Et on devait relancer la DSP. Sauf qu'entre-temps, c'est passé à TPM. Donc, on va engager le dossier avec TPM, il n'y a pas de souci. La gestion de la régie, c'était un peu lourd pour nos services. Il y avait une fréquentation qui n'était pas si évidente que ça. On était toujours dans le petit local. Donc, on a décidé de ne pas continuer et de lancer vraiment une DSP, enfin, de travailler sur ce sujet. Ça va prendre encore un peu de temps. Voilà.
Merci. J'ai une question sur le budget participatif. Nous avons jusqu'au 30 septembre pour voter pour les projets qui nous tiennent à cœur. Parmi ceux qui ont été retenus, le système de vote, 3 points pour le projet favori, puis 2 points pour le second et 1 point pour le troisième, me paraît limitatif.
car il favorise les gros projets de plusieurs dizaines de milliers d'euros, au détriment des petits projets plus modestes de 1 000 ou 5 000 euros, mais tout aussi utiles ou novateurs. Pour une prochaine fois, envisagez-vous d'être davantage de points à distribuer? Si on prend par exemple le projet de la fontaine à 30 000 euros, le déploiement des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques à 75 000 euros et les balançoires supplémentaires pour le parc Travero par exemple à 10 000 euros, on arrive à 115 000 euros. Il reste donc 35 000 euros pour arriver aux 150 000. Donc il faudrait pouvoir distribuer plus de points pour arriver à 150 000. Vous voyez ce que je veux dire? Merci.
Déjà, merci de souligner que c'est une bonne initiative qui est prise pour le Pradet. On donne la parole au Pradetan et ça permet d'avoir un grand processus démocratique qui se met en route pour mettre en place des beaux projets pour notre commune, l'embellir, en améliorer le cadre de vie. Donc, je vous remercie de renforcer ce point. Concernant le budget participatif, bah, c'est une première. Donc, je pense qu'on sera amené à améliorer la façon dont on le fait. C'était bien. Déjà, je pense qu'on est innovant dans ce domaine comme dans bien d'autres. C'était une vraie demande des Pradetans. Je pense que tous les élus là-dessus, j'espère qu'ils avaient été votés d'ailleurs, M. Meurier. Il faut les voter. Je parle de budget participatif, hein, pour le reste. Voilà, donc je crois que c'est une première. Bien sûr, il y aurait des ajustements à faire peut-être dans le temps. On va déjà attendre de voir ce que ça donne le vote le 30 septembre. En fonction de ça, on verra s'il faut réajuster le dispositif l'année prochaine. On le fera. En tout cas, ça a eu un grand succès, un succès massif. Et on espère bien poursuivre dans les années qui viennent. Merci, M. Meurier. Et on vous donne la parole une dernière fois.
Ouais, j'ai encore une dernière question. Alors, dans la nuit du 26 au 27 juin, a eu lieu des travaux boulevard de l'Âtre de Tassigny. Les riverains se sont plaints sur la page Facebook de la ville du Pradet de ne pas avoir été prévenus. Ils avaient des commentaires un peu acerbes, etc. Mais en tout cas, pour le moment, ils sont restés sans réponse. Donc, que leur répondez-vous? Merci.
Des administrés qui se plaignent au Pradet? Alors moi, je n'ai jamais vu, hein, jamais entendu. Franchement, tous les gens sont extrêmement satisfaits, tout se passe bien. Je n'ai jamais entendu une plainte, quoi que ce soit. Bon, peut-être un petit peu ici et là, maintenant vous me faites penser. Et alors, concernant Maréchal Lattre de Tassigny, je n'ai pas vu en particulier de plainte. Il m'a peut-être eu. C'est vrai que quand on fait les travaux, c'est des gens, c'est gênant parce qu'on limite un peu la circulation, ça gêne quelques jours, c'est vrai. Mais après, au bout de 6 mois, 9 mois, les gens viennent nous voir en disant bah, « qu'est-ce que c'est joli ce que vous avez fait ?» ou « qu'est-ce que c'est bien ?» Mais ce n'est pas que notre équipe, ce n'est pas que le Pradet, c'est un petit peu partout. Quand on fait des travaux, c'est toujours un peu gênant. Mais bon, il faut passer par là pour embellir notre ville, pour améliorer notre cadre de vie au quotidien. Je prends l'exemple du rond-point de la Baguette, dont les travaux vont commencer en janvier 2019. Bon, bah, on a déplacé la semaine dernière un transfo. Ça a été l'émeute à bord. Bon, ça ne durait que 2 heures, et 2 heures ce matin. On va aussi requalifier l'avenue de l'EAP. Ça a été voté d'ailleurs ce matin à TPM. On va requalifier toute l'avenue de l'EAP. En faisant le pluvial, bah, il va y avoir un peu de travaux. Par contre, on va embellir cette entrée de ville. On a commencé par embellir le Montcalm. Ensuite, on va embellir la Baguette. Ensuite, on va embellir le l'EAP. Alors, c'est vrai, on fait des travaux. Ça fluidifie, c'est peut-être compliqué dans les travaux. Mais après, on a des belles entrées de ville. On a un beau Pradet, on fluidifie la circulation. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui se plaignent un peu quand on fait les travaux. Mais bon, à un moment, il faut avoir le courage aussi de mener ces travaux, sinon on ne fait rien. Voilà. Donc il y a peut-être des gens qui ont vous pété, qui ont râlé, c'est vrai. Je m'excuse auprès d'eux de la nuisance que ça a pu amener. Mais il faut en passer par là pour que notre ville soit un petit peu plus belle tous les jours. C'est comme, vous savez, on a lancé une opération façade aussi pour embellir notre centre-ville. C'est vrai que quand il faut mettre un petit peu d'argent pour refaire les façades, bah, c'est un coût pour les commerçants, un coût pour les propriétaires, mais à côté de ça, ça permet d'embellir notre ville. On subventionne à hauteur de 50%. Donc même si ça râle un peu, moi j'espère que ça va beaucoup râler, parce que plus ça râle, plus on fera d'opérations et plus notre ville sera belle. Bon, je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée et puis rendez-vous au prochain conseil municipal. Allez-y, monsieur Fiorin, je peux pas résister. Allez-y.
Merci. Est-ce que M. Garnier peut nous faire un point de situation sur le pain de Galles? Merci. Et ça sera ma dernière question. Bon, j'en aurai une autre alors.
Alors, en ce qui concerne le pain de Galles, je vous rappelle que nous avions deux procédures en cours, une procédure au tribunal administratif et une procédure au tribunal civil, enfin en grande instance. Pour le tribunal administratif, un expert avait été désigné pour situer l'origine des désordres et les éventuelles responsabilités.
vient d'envoyer son pré-rapport qu'on a reçu il y a quelques jours, dans lequel il conclut à une cause liée à des phénomènes naturels, et notamment la mise en charge de la nappe phréatique du plan La Garde-Le Pradet, etc., de cette grande plaine intercommunale. Et cette mise en charge de la nappe, lorsqu'elle atteint une cote, notamment en gros aux alentours de la cote 25 NGF, eh bien on a un phénomène de déversoir qui profite des failles du terrain très compliqué au droit du plein de Galles pour s'écouler vers la mer, puisqu'on est en charge, on est à 25 mètres au-dessus de la mer, et ça s'écoule comme l'eau s'écoule naturellement en cherchant la gravité. Cette conclusion amène qu'il n'y a aucune responsabilité de la part des différents acteurs qui avaient été mis en cause, puisque c'est un phénomène naturel, que la ville a effectivement eu raison de prendre un arrêté, en demander un arrêté de catastrophe, de classement de catastrophe naturelle, et il s'en remet, il remet son rapport au juge qui conclura en finalité sur cette affaire. Ça, c'est le tribunal administratif. En ce qui concerne le tribunal civil, on est encore dans la phase d'expertise. Là aussi, l'expert judiciaire, avec qui nous avons eu un petit peu quelques déboires au départ, a modifié un petit peu ses positions et conclut, il donne des éléments de préconclusion qui seraient de tendance à aller vers les conclusions de son collègue. C'est-à-dire probablement un phénomène d'ordre naturel sans que la responsabilité d'une des parties puisse être engagée. Il préconise un certain nombre de travaux. Ces travaux d'une importance assez conséquente visent à réaliser des murs de soutènement dans la partie effondrée, c'est-à-dire ce grand talus qui descend vers la mer, par trois murs de soutènement situés dans la pente et qui seront sur les terrains de l'AICI des Calanques et voire sur des terrains privés peut-être. Je n'ai pas le détail en tête exactement. Donc là aussi, le juge aura à se prononcer. Et entre-temps, nous avons une nouvelle expertise judiciaire début octobre avec cet expert et toutes les parties pour donner notre avis, notre point de vue sur la question. En ce qui concerne le point de vue juridique, donc je vous rappelle que nous avons Maître Parisi qui nous assiste dans cette affaire, mais nous avons également l'avocat de nos assureurs de responsabilité civile, puisqu'ils ont été appelés dans la cause, bien que si on conclut à une non-responsabilité, nos assureurs vont se retirer, bien sûr. Et nous avons également, au point de vue technique, nous avions désigné un expert qui n'est pas les ingénieurs experts à qui nous avions confié une étude générale du site, mais nous avons pris pour les laisser en dehors de la judiciaire, pour pas qu'ils soient affectés par cette opération judiciaire, mais nous avions pris un expert spécifique sur la partie judiciaire pour qu'il nous conseille, et là, il va nous donner son avis sur le pré-rapport de l'expert.
Merci pour toutes ces explications, très intéressantes. Pourquoi vous dites toujours pré-rapport ? Pourquoi il y a un pré-rapport et un rapport ?
Le rapport définitif, les experts judiciaires fournissent aux parties des pré-rapports pour entendre les dires de chacun.
D'accord.
Voilà, donc, et après avoir pris connaissance des dires de chacun, il fera un rapport définitif qu'il va envoyer à chaque partie et au juge.